On se retrouve dans le cadre d'un événement proposé par Snapchat. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord ?
Bien sûr. Je m'appelle Donatien Boson et je suis le directeur du studio de réalité augmentée de Snapchat en France.
Alors la réalité augmentée, on va en parler. Tout d'abord, est-ce qu'on peut la définir ?
Oui, alors la réalité augmentée, qui est souvent confondue avec la réalité virtuelle, c'est le fait de superposer au monde réel, à travers, par exemple, la caméra de son téléphone, des éléments qui ont été générés par le téléphone, par une application. Donc on s'appuie sur le monde réel pour l'enrichir, pour l'augmenter, avec des informations ou avec des éléments artistiques, informatifs, voilà, toutes sortes de choses. Je pense que la plupart des gens connaissent la réalité augmentée à travers les filtres qui permettent de transformer son visage, d'ajouter des éléments. Ça, c'est la version basique de la réalité augmentée qui est utilisée par énormément de monde sur Snapchat, 250 millions de personnes chaque jour. Et chez Snapchat, on a envie de démontrer aux gens que la réalité augmentée peut aussi s'ouvrir sur le monde, sur la caméra qui s'ouvre vers l'arrière et qu'on peut investir notamment l'espace public avec des expériences en réalité augmentée.
Alors le 8 mars, ce sera la journée des droits internationaux de la femme et Snapchat a décidé de s'engager en créant des statuts en réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les intentions de ce projet ?
Bien sûr. Le 8 mars, comme vous le disiez, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et on a fait le constat un peu terrible que 90% des statues dans l'espace public en France, les statues physiques, illustrent des hommes. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut utiliser notre technologie de la réalité augmentée pour modestement rétablir un peu d'équilibre. Et on a décidé d'installer dans 8 villes de France, dont Bordeaux, des statues en réalité augmentée de femmes illustres, mais qui n'ont pas aujourd'hui encore le droit à leur statut physique. Et donc elles seront installées à côté de statuts physiques d'hommes et elles seront d'ailleurs déclenchées par le fait de scanner avec son téléphone les statuts d'hommes. On verra apparaître à ses côtés, dans les mêmes volumes, dans la même taille, dans le même style artistique, une statue célébrant une femme, en l'occurrence à Bordeaux, la statue de Françoise de Graffigny aux côtés de celle de Montesquieu, place des Quinconces.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce que vous avez choisi donc Françoise de Graffigny aux côtés de Montesquieu ?
Alors, Françoise de Graffigny et Montesquieu sont deux contemporains. Ils ont quasiment les mêmes dates de naissance et de mort. Et en fait, Françoise de Graffigny est très célèbre pour avoir écrit « Lettres d'une Péruvienne » en 1747, qui est une inspiration directe des lettres persanes de Montesquieu, qui avaient été publiées 25 ou 26 ans plus tôt. Elle a vraiment revendiqué cette inspiration, et donc on s'est dit que ce serait un clin d'œil, on allait établir une sorte de dialogue silencieux entre deux contemporains qui, à notre connaissance, ne se sont jamais rencontrés, mais qui se sont beaucoup inspirés l'un l'autre.
Est-ce que c'est le rôle des réseaux sociaux, et là, ici, en l'occurrence, de Snapchat, de s'engager sur des faits de société comme la parité ?
On est persuadé que c'est notre rôle, et c'est extrêmement important en tant que plateforme ouverte pour Snapchat de, quelque part, montrer le chemin, de montrer à quel point la technologie, en fait, peut servir de belles causes. Et en tant que plateforme ouverte, chaque utilisateur de Snap qui a envie de créer une expérience de réalité augmentée, notamment d'installer d'autres statuts dans d'autres villes ou sur d'autres places de Bordeaux, peut le faire puisque on a un outil gratuit qui s'appelle Lens Studio, disponible sur le site de Snap et qui permet à tout un chacun de créer ses propres expériences. Donc on espère, en montrant ses capacités de la réalité augmentée, inspirer, donner peut-être un petit peu l'exemple.
Est-ce que vous pouvez revenir avec le plus concis possiblement sur comment s'est déroulé le projet, comment se sont passées les différentes étapes pour venir à décider de choisir ces emplacements de statues, les femmes choisies et comment en fait sont mises en place ces méthodes, enfin ces statues.
Alors, de la façon la plus concise possible, c'est un projet d'envergure, mais qui a été réalisé en seulement 2 mois et demi, 3 mois. On a vu la date du 8 mars arriver et on s'est dit comment on peut essayer de faire quelque chose qui a du sens et de montrer que la technologie peut servir à de belles causes. Et donc, on s'est tout de suite dit qu'il fallait choisir 8 villes pour en écho à la date du 8 mars. Et c'était une évidence pour nous d'inclure Bordeaux, évidemment, dans cette sélection, aux côtés de Lille, de Paris, de Metz, de Strasbourg, de Nantes, Marseille et Lyon. Et on a choisi des lieux assez centraux, avec beaucoup de passages, puisque bah, on a envie que ces statues soient vues et expérimentées par un large public. Donc à Bordeaux, on a choisi de façon assez logique la place des Quinconces et la statue de Montesquieu. Et ensuite, à partir de cette statue, on a cherché qui est-ce qu'on pourrait installer pour l'éternité, puisque cette statue en réalité augmentée est là pour durer, qui est-ce qu'on pourrait mettre comme statue qui serait avec celle de Montesquieu. Et donc, le fait qu'ils sont contemporains et qu'ils ont cette connexion forte du point de vue littéraire, Françoise de Graffigny faisait une très bonne candidate. Et donc, dans d'autres villes, on a choisi, par exemple, à Paris, Simone Veil pour être aux côtés du général de Gaulle, à Metz, Joséphine Baker à côté de Jean Moulin, puisque voilà, ce sont deux figures de la résistance qui ont marqué l'histoire de France, et donc ça nous semblait très important de faire ces associations. Et, voilà.
Et la volonté de présenter ces statues de femmes aux côtés de statues d'hommes, est-ce que c'est, justement c'est pour montrer l'aspect qu'il n'y a que 90% des statues en France sont des statues d'hommes, ou est-ce que c'est pour montrer une sorte d'ironie en fait que oui, ces statues de femmes étaient obligées d'être à côté de ces hommes?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. L'idée, c'est d'utiliser la réalité augmentée pour rétablir la parité. Et donc, en les mettant côte à côte, quelque part, on illustre le fait que pour chaque homme célèbre, on devrait célébrer une femme célèbre. Pour chaque homme célèbre, on devrait illustrer, célébrer une femme qui a, elle aussi, marqué la société française. Donc, il s'agit nullement de polémiquer. On est juste parti de ce constat un peu triste, effectivement, d'un déséquilibre assez flagrant. Mais on est très optimiste chez Snap et on se dit, avec notre technologie, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de montrer une direction différente?
Et en parlant de technologie, j'ai une question un peu plus générale. On sait que les réseaux sociaux ont des effets à la fois positifs et négatifs en fonction de l'utilisation de chacun et de chacune. On parle beaucoup dernièrement de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle qui va venir modeler et peut-être modifier notre monde. Et on sait qu'il peut y avoir certains risques, certaines dérives. Est-ce que Snapchat se pose aussi des questions au niveau de la déontologie et de l'éthique? Est-ce que vous souhaitez vous orienter vers des projets plus fort, enfin des belles causes comme on dit, comme la journée des droits de la femme où c'est unanime, hein, personne ne va se dresser contre ça, je pense pas qu'il y ait d'effet délétère ou négatif vis-à-vis de cette initiative, mais est-ce que vous prenez en compte les risques éthiques et déontologiques de se lancer vers quelque chose de très virtuel et numérique?
Je pense que la réalité augmentée a en réalité énormément de vertus, puisqu'elle permet d'augmenter le réel. Elle n'est pas là pour couper les utilisateurs et les utilisatrices de leur univers. Bien au contraire, on est là pour enrichir le réel et permettre aux gens de se connecter, de partager des expériences ensemble. Donc déjà sur le côté se couper du monde, vraiment la réalité augmentée, c'est complètement l'inverse. Et la réalité augmentée ouverte sur le monde, telle qu'on la promeut au studio de réalité augmentée de Snapchat, c'est justement pour inciter les gens à sortir et à découvrir et à apprendre sur le monde. Ensuite, en termes d'éthique et de dérive, Snapchat, c'est une plateforme très vertueuse puisque rien de ce qui n'est publié sur Snapchat n'est pas vérifié auparavant. Et tous nos outils sont construits sur le principe de ce qu'on appelle en anglais « privacy by design », où on récolte le moins de données personnelles possibles sur les utilisateurs, le strict minimum qui permet aux applications de fonctionner. C'est une messagerie éphémère. Tout le principe, c'est que toutes les conversations, par exemple, qu'on a sur Snapchat s'effacent au bout d'un certain temps, comme la conversation réelle qu'on peut avoir avec des amis n'est pas enregistrée. On considère que ça doit être pareil sur Snap. Donc, on pense être dans une démarche vraiment très, très éthique et respectueuse des utilisateurs à tous les niveaux, avec toutes les technologies qui composent Snap.
Une dernière question.
Est-ce que vous avez parlé du coup du studio de réalité augmentée? Donc ce dernier est basé à Paris. Est-ce que vous pouvez le présenter un peu plus et surtout aussi présenter les personnes qui ont participé à la mise en place de ce projet?
Absolument. On a lancé, c'est une initiative unique au monde, un studio de réalité augmentée à Paris qui est composé de 14 personnes qui ont été recrutées spécifiquement l'année dernière, en 2022, pour ce studio. On a une mission principale qui est de faire comprendre le potentiel de la réalité augmentée, bien au-delà des préjugés que peuvent avoir les gens autour des filtres de réalité augmentée. On a envie de démontrer toutes les capacités, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la culture, des arts et du divertissement. Et donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va voir des partenaires, des institutions culturelles, des artistes, et qu'on leur propose de construire pour eux, avec eux, gratuitement, on prend en charge tous les frais, des expériences innovantes en réalité augmentée. On a, par exemple, en novembre 2022, lancé un projet avec le Centre Pompidou à Paris qui transformait la façade Centre Pompidou en un instrument de musique géant et interactif. Et l'initiative 8 mars 8 femmes, lancée prochainement, est une autre illustration de comment la réalité augmentée peut être utile à l'utilisateur. Et donc, on a, parmi cette équipe de 14 personnes, on a notamment une designeuse 3D très talentueuse qui a sculpté elle-même de ses mains les statues de l'opération 8 mars 8 femmes. Alors de ses mains avec sa souris bien entendu, puisqu'on parle de réalité augmentée. On a une ingénieure en réalité augmentée qui a codé toute l'application pour permettre la détection de la statue masculine et l'apparition de la statue féminine à ses côtés. Voilà, donc c'est une équipe avec beaucoup de profils créatifs principalement et qui travaille avec les institutions et les partenaires pour créer ces expériences en réalité augmentée en France.
On se donne rendez-vous alors le 8 mars pour voir le résultat. Merci beaucoup.
Rendez-vous le 8 mars, place des Quinconces.